finis et s'étendent les grands prés marécages. Pas un seul oiseau ne chante sur ces arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher.
Plus de 5 millions de Juifs de toute l'Europe ont été exterminés selon un plan organisé par les nazis entre 1933, date d'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne et la libération des camps en 1945.
3 millions d'entre eux sont morts dans les camps d'extermination, 1 million à Auschwitz. En Pologne, 90% de la population juive, soit 3 millions de personnes, ont été assassinées. En France, 25% de la population de confession juive, soit 75 000 personnes, dont 11 000 enfants, et cela avec la participation active du régime de Vichy.
Auschwitz-Birkenau tient une place centrale dans le dispositif de la solution finale organisée par les nazis à la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942. 11 millions de juifs d'Europe doivent être exterminés.
1 300 000 déportés seront conduits à Auschwitz. 900 000 ne seront jamais enregistrés et conduits directement dans les chambres à gaz. Sur les 400 000 enregistrés au camp et détenus, la moitié d'entre eux mourront avant la libération. L'énumération des chiffres fait frémir.
Cependant, elle ne peut suffire. Elle informe sur l'ampleur de la Shoah mais n'explique pas. Or, il nous apparaît capital d'apporter deux autres regards.
D'abord, celui qui analyse les causes, les circonstances, les volontés politiques et les immondes théories racistes et antisémites à la base de cette extermination, idéologiquement, politiquement et industriellement planifiée.
Ensuite, celui qui cherche à mettre un visage, une identité, une vie, une histoire sur chacune des victimes, hommes, femmes, enfants.
C'est avec ce regard-là que nous avons choisi de vous proposer sur Fréquence Sillé une nouvelle série d'émissions sur la Shoah. On y parlera des enfants, de l'expression par le roman ou le cinéma et de l'entreprise de déshumanisation.
Nous sommes lycéens de première L et terminale L au lycée Paul Scarron.
Aujourd'hui, L'enfant sans étoiles, le roman pour témoigner. Genre littéraire considéré comme accessible au plus grand nombre, le roman est un moyen d'expression qui permet à un auteur de prendre beaucoup de liberté dans son écriture. Il permet de prendre de la distance avec des faits historiques précis, authentiques et autorise à mettre en situation des personnages totalement fictifs ou parfois inspirés de personnages réels.
Pour toucher un public toujours plus large sur la question des enfants juifs cachés pendant l'occupation, un spécialiste est passé de l'écriture historique et de l'analyse au roman.
Nous avons l'honneur de recevoir Raphaël Delpar qui publie « L'enfant sans étoiles », dont l'action est située à Parigny-l'Évêque, chez nous en Sarthe. Raphaël Delpar, bonjour.
Bonjour.
Après avoir fait des recherches, publié des ouvrages sur les enfants cachés et réalisé des films documentaires pour la télévision sur ce sujet, vous avez publié récemment un roman « L'enfant sans étoiles ». Nous vous remercions d'être venu à notre rencontre.
L'enfant sans étoiles, quelle est la trame en quelques mots de cette histoire?
Alors la trame, c'est on est en mai 1943. Il y a une femme qui habite à Parigny-l'Évêque, rue Basse-Brette très exactement, et qui est veuve de la guerre de 14. Et son fils est mort en 1940 de la tuberculose. J'avoue, 1936 de la tuberculose. Et elle est approchée sans savoir qu'elle est approchée par un réseau de résistance sartois qui lui propose, à travers un pharmacien, qui lui propose de prendre un enfant. Vous ne pourriez pas prendre un enfant, ça vous ferait un petit peu d'argent pour améliorer votre ordinaire. Elle a 60 ans, ce qui aujourd'hui est la jeunesse, mais à l'époque, c'était une personne âgée. Et puis, elle fait de la couture dans les fermes hein, pour gagner sa vie. Et donc, elle dit oui, elle accepte. Mais elle ne peut pas imaginer qu'elle va recevoir un enfant qui a été sorti d'un camp d'internement de la zone sud, c'est-à-dire de Gurs, et qui est dans un état mental et physique épouvantable, qui est dans un coma, enfin, il est au bord de la mort. Et finalement, on lui dit là qu'il faut qu'elle le ressuscite, qu'elle le fasse renaître. Et au début, elle n'est pas très d'accord. Enfin, elle ne se sent pas bien quoi, face à cette situation. D'abord parce que ce n'est pas ce qu'elle avait imaginé. Elle avait imaginé recevoir un orphelin. Voilà, et puis bon. Et finalement, elle va se prendre évidemment d'affection pour cet enfant. Et elle va le sauver. Elle va le faire renaître. Mais lui aussi va la faire renaître, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est en rupture, puisque son mari est mort de la guerre de 14, des suites de ce qu'on appelait le gaz moutarde, qui était un gaz terrible qui brûlait les poumons, et son fils est mort de la tuberculose. Alors, je vous rappelle qu'à côté de Parigné-l'Évêque, a été créé, ce n'est plus du tout sa mission, a été créé un sanatorium par le docteur Gladec, qu'il a été soigné dans ce sanatorium. Et donc, c'est ce couple, en quelque sorte, qui va se renaître l'un l'autre, n'est-ce pas ? Et puis autour, vous avez la résistance qui est omniprésente au départ et qui, à un moment donné, va être plus présente. Pourquoi ? Parce que l'enfant n'étant pas... Ils ont fait une erreur. La résistance a fait une erreur. Ils ont oublié de l'inscrire au catéchisme. Et donc, il y a un paysan qui n'est pas un type bien, qui va le dénoncer et qui pense que c'est un enfant juif et qui va le dénoncer. Et à ce moment-là, tout le village se met en route, essaie de sauver cet enfant, et voilà.
Vous êtes-vous inspiré de votre propre expérience pour l'écriture de ce roman ? Et si oui, des personnages sont-ils inspirés de personnes réelles ?
Alors, je me suis inspiré de mon expérience, mais qui est haute comme ça, qui est un millimètre par rapport au reste du livre. Tout ce qu'il y a dans le livre est absolument inventé. Mais c'est vrai que, premièrement, j'ai décrit une ambiance que j'ai connue. J'ai décrit des gens, mais j'ai fait une cuisine à moi, comme tous les romanciers. C'est-à-dire, j'ai pris des gens qui ont existé, j'en ai pris d'autres, j'ai fait des greffes, quoi. Hein, comme les romanciers font, on fait des greffes, et on invente un personnage, etc. Mais c'est vrai que je me suis aussi basé, bien sûr, sur du matériel humain suite à mes travaux ou à mon travail sur les enfants cachés. Là, j'avais évidemment un matériel humain important, et donc je m'en suis servi en utilisant ce dont j'avais besoin. Donc ma part d'expérience est minimale. Je ne dis pas qu'elle est inexistante, mais elle est minimale. Enfin, c'est l'arrivée, quoi. Et tout le reste, c'est totalement inventé.
Fallait-il absolument que l'histoire se passe à Parigné ?
Oui, parce que c'était là un lieu que je connaissais. Et puis, je voulais rendre hommage à ce livre, a aussi l'intention de rendre hommage d'un côté à la population sartoise qui s'est mobilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale pour venir au secours des enfants juifs, et, enfin de leurs familles et des adultes, etc. Et puis les habitants de Parigné-l'Évêque, puisque c'est tout de même des habitants qui, dans une certaine mesure, même si je n'avais rien à craindre des problèmes raciaux, m'ont protégé. Donc, oui, il fallait que ça se passe à Parigné. Il ne me serait pas venu à l'idée, je n'aurais pas supporté que le livre se déroulât ailleurs qu'à Parigné-l'Évêque.
Tu es parti pour le voyage, adieu famille, adieu voisin, adieu le clocher du village, tu chanteras sur ton chemin, et tout le long de la grande route, ton cœur ne perdra pas l'espoir, jamais de pleurs, jamais de doutes. Peut te dire chaque soir dans un coin de mon pays.
Depuis quand aviez-vous l'envie de faire un roman sur ce sujet ?
50 ans. Oui, 50 ans. Mais je n'en trouvais jamais l'opportunité. D'abord parce qu'il fallait que des choses, peut-être en moi, prennent leur place. Que j'ai le courage aussi de raconter une histoire qui n'était pas mon histoire, mais qui était pas loin, qui n'était pas très éloigné, quelque part, mais qui n'était pas mon histoire. Mais bon. Et puis, Et puis, vous savez, c'est le, voilà, il y a des choses qui s'enchaînent. Le livre, L'enfant sans étoile, je l'ai proposé, j'espère qu'elle n'écoutera pas cette émission, je l'ai proposé, il y a 4 ans, au même éditeur, qui l'a refusé. Parce que les éditeurs disent, voilà, non, oh, c'est, non, c'est pas, non, j'y crois pas. Enfin, bon, voilà, ils ont tout à fait le droit. Hein. Et 4 ans après, allez savoir pourquoi, d'un seul coup, ce même sujet, que l'éditeur avait refusé 4 ans auparavant, lui a plu, lui a parlé, elle a eu envie de le, enfin, c'est une femme, en l'occurrence, elle a eu envie de le faire, et le livre s'est fait. Voilà. Peut-être que si elle m'avait, si, et en plus, c'est elle qui est venue me chercher. En me disant, vous m'aviez proposé un sujet, est-ce que vous en êtes-vous? Est-ce que vous l'avez écrit? J'ai dit, non, non, il est toujours dans mes cartons, il est toujours là. Est-ce que vous seriez prêt à le... Oui, j'ai donné un résumé, un synopsis, comme on dit. Et puis je suis parti, quoi. Mais elle aurait pu aussi très bien, et le sujet aurait pu rester dans ses cartons, dans mes tiroirs.
On va essayer d'évoquer quelques personnages de votre histoire. Pourquoi faire de Louise, la femme qui accueille, un personnage qui se voile la face au début du roman?
Parce qu'elle n'est pas du tout prête à accueillir cet enfant tel qu'il est. Elle est prête à accueillir un orphelin, je peux employer un mot terrible, mais il ne faut pas le prendre au premier degré, un orphelin classique. Là, c'est un débris d'humain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est dans le premier chapitre, si je ne dis pas de bêtises, où elle lui fait sa toilette. Et c'est monstrueux. Il est habillé. Enfin, c'est monstrueux, quoi. C'est plus un être humain. Et elle veut pas de ça. Elle a déjà souffert de son fils, son petit garçon qui est mort quasiment au même âge de la tuberculose, son mari qui est mort des suites du gaz moutarde. Non, elle n'est pas prête à ça. Ça la dégoûte même. Et d'ailleurs, plus tard, quand elle convoque ou elle fait convoquer la jeune fille qui lui apporte l'enfant. Et la jeune fille lui dit, la jeune résistante lui dit, mais bon, si vous voulez, ou c'est le pharmacien, j'avoue, je ne sais plus. Mais il lui dit, mais si vous voulez, on va vous le reprendre. Elle dit, mais il n'en est pas question. Mais au départ, ce n'était pas ce qu'elle attendait. D'ailleurs, dans le premier chapitre, je crois, de mémoire, la jeune fille, la jeune résistante, lui dit, à quoi vous attendiez-vous? Et elle ne sait pas quoi répondre, parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Donc il y a une forme de répulsion, et elle le dit d'ailleurs, enfin elle le dit, je lui fais dire, enfin bon, peu importe, mentalement en tous les cas, une forme de répulsion, parce que, encore une fois, ce n'est pas l'enfant qu'elle attendait de recevoir.
Qui est Jean, le petit garçon, et dans quel contexte est-il conduit vers Parigné? Qui est la jeune fille qui l'amène dans sa famille d'accueil?
Alors, la jeune fille, c'est un peu le symbole de ces jeunes filles juives, protestantes, catholiques, communistes qui parcouraient les campagnes à la recherche de cachettes. Donc c'est un peu un symbole. Bon, j'ai pris protestante parce que c'est vrai que les protestants ont été les premiers à se mobiliser, hein, à l'époque en faveur des juifs. Et donc, voilà, c'est un symbole. Alors, elle appartient à un mouvement, mais je n'ai pas ressenti la nécessité d'expliquer. D'abord, parce que ce serait devenu un livre technique. Et à ce moment-là, ce n'était plus un roman. Enfin bon, donc il fallait... Ensuite de ça, la deuxième question, c'était sur Jean, le petit garçon. D'où il vient?
Qui est-il et dans quel contexte s'est-il conduit vers Parigné?
Ah ben, le contexte, c'est qu'il a été... C'est raconté plus loin dans le roman. Il est arrêté, en fait, avec ses parents en juillet 1942. Il est interné au camp de Gurs, dans des conditions épouvantables. Et c'est là le choc de la disparition du père, dont il ne sait même pas où, à quel moment il a disparu, et le départ de la mère, parce qu'il va courir derrière cette image de sa mère. Et c'est comme ça qu'il va la reconnaître à la fin. Mais il a perdu la mémoire. Il a perdu, son passé n'existe plus, il a perdu la mémoire. Donc c'est un enfant qui vit entre ce que j'appelle en apnée, quoi. Il est entre le ciel et la terre, et lui, il veut retomber sur la terre. Ce qu'il veut, c'est retrouver son passé, savoir d'où il vient. Il se pose à lui la même question que vous posez vous, savoir d'où il vient. Qu'est-ce qui est présent dans sa mémoire? Le camp de Gurs, le pot au lait, la soupe dégueulasse et honteuse, les chalits et la promiscuité dans les baraquements. Et voilà ce dont il se souvient. C'est ça, sa mémoire. Donc, il est en devenir. Et Louise va lui rendre, dans une certaine mesure, va lui rendre sa mémoire.
Façon dont vous traitez dans ce roman les relations entre les enfants dans le village.
La relation avec les enfants, les enfants parisiens, c'est ils ont compris. Ils ont compris. Vous savez, quand je suis allé présenter mon livre à Parigny-l'Évêque, j'ai retrouvé des copains de la maternelle. On s'était pas vu depuis 60 ans. Hein. Évidemment, j'ai retrouvé des messieurs avec des problèmes de rhumatisme et des dames et les messieurs des cheveux blancs, etc. En fait, ils m'ont avoué que, évidemment, c'était des gamins, c'était des petits-enfants, mais ils comprenaient sans comprendre. Mais ils comprenaient que j'étais pas le petit-neveu, le cousin, etc. Mais ils comprenaient, donc ils se taisaient. Mais pour eux, j'étais un enfant comme eux. À partir du moment où je jouais avec eux, où je faisais le crétin avec eux, j'étais un enfant pareil à eux. Alors je fais effectivement un enfant qui est le fils de son père, je veux dire par là, c'est celui qui va le dénoncer, qui lui subit en quelque sorte la doxa du père. Les relations avec les autres enfants sont des relations humaines. Il n'y a pas de gros problèmes. Il n'y a pas d'injure raciste. Il n'y a pas d'injure raciste. Ça, je l'ai voulu, je l'ai évité. Comme il n'y a pas de relation avec l'Église, parce que je n'avais pas envie d'écrire la énième histoire de l'enfant juif face au Christ, etc. Ça a été fait par des gens de talent, et que je n'avais pas du tout envie de le faire. De la même manière, je n'avais pas non plus envie de faire l'histoire du zizi. Alors, le zizi circoncis. Ah, moi, je n'ai pas dit circoncis, c'est quoi dire ? Je n'avais pas envie de faire ça. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir tenu ma route, ma feuille de route, et d'être... Donc, les relations, c'est un enfant pareil aux autres, et il est accueilli. Alors, peut-être que c'est un peu béat comme relation. Moi, je n'ai aucun souvenir désagréable de mes copains, de mes copines de cette époque. Aucun. Aucun souvenir désagréable. Au contraire, je crois qu'ils m'ont aimé, à leur manière. Et quand on a fait cette présentation, ils ont déclaré à la presse et ailleurs qu'ils étaient heureux de me revoir.
À propos de Suzanne, donc c'est la petite fille que le héros, que Jean embrasse dans le livre. Et est-elle inspirée d'un personnage réel ?
Ah, bon. C'est vrai qu'il y avait... j'ai toujours aimé les femmes, je les aimerais toujours. Il y avait une petite fille, et je peux dire son nom, parce qu'elle le sait, bien entendu, qui s'appelait Claudine Millet, qui était la fille du secrétaire de mairie de Parigny-l'Évêque. Elle habitait sur la place de Parigny-l'Évêque, la place de où il y a le marché, derrière la mairie. Et, enfin, qui n'était pas la mairie de l'époque, qui était la gendarmerie. Et elle avait un petit tricycle. On avait 6 ans, hein, elle et moi, la même année. Et 6 ou 7 ans. Et elle faisait des tours autour du monument aux morts avec son tricycle. Il y avait sa jupette qui se soulevait. Je voyais ses cuisses et j'étais éperdu d'amour pour ses cuisses roses. Et pour elle-même, elle était blonde, elle était ravissante, elle avait un joli visage. Alors peut-être que je me suis vengé sur Suzanne, oui. Que Jean, en tous les cas, a été mon transfert, comme on parle en psychologie, a été mon transfert. Et que, non, dans votre question, il y a une question qui a une partie qui me touche, mais qui est plus. Je crois que dans mon adolescence ou dans ma préadolescence, je crois que j'ai dû être amoureux d'une Suzanne, qui n'était pas forcément Suzanne, qui s'appelait pas Suzanne, mais qui avait un peu la taille. Moi, je me souviens d'une jeune fille à l'époque, alors que je ne suis pas petit, qui n'arrêtait pas de grandir. Et moi, je restais petit. Enfin, je n'arrivais pas à grandir autant que, à la même vitesse qu'elle. Et ça m'agaçait profondément. Et je crois que je devais être aussi... Mais j'étais amoureux de tellement de filles que celle-ci ou d'autres.
Vous mettez en scène des personnages fortement typés comme l'ogre, avec des gentils qui protègent et des méchants prêts à dénoncer. C'était partout comme ça dans nos campagnes à cette époque ?
C'était partout comme ça. À part l'ogre, bien sûr. L'ogre n'existait pas. L'ogre, je l'ai inventé. L'ogre, je l'ai inventé, oui et non. Parce que quand je suis venu présenter le livre à Parigné-l'Évêque, pardonnez-moi de reparler de Parigné-l'Évêque, mais c'est mon village, hein. C'est mon clocher. Donc, il y a une dame qui est historienne et avec laquelle j'ai beaucoup parlé, puisqu'elle a fait des travaux de recherche, Parigné-l'Évêque. Et elle m'a dit, mais l'ogre, vous l'avez vu en réalité. Il y avait à Parigné-l'Évêque, pendant la guerre, semble-t-il, un homme qui était un peu perturbé de la guerre de 14, qui vivait comme une espèce de clochard. Et probablement, et même certainement d'ailleurs, j'ai dû le croiser. Et comme j'ai de l'imagination, cette image a dû mûrir en moi. Et je sais que, en fait, pour être honnête et sincère avec vous, Le pivot du livre, c'est pas Jean, c'est pas Louise, c'est l'ogre.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Vous parlez beaucoup des trains, pourquoi? Est-ce symbolique?
Bah, les trains, eh ben oui, c'est symbolique puisque les trains, c'est la déportation, c'est l'enfer. Ces trains qui roulaient avec jusqu'à 32 wagons, 1500 personnes, entassées les unes sur les autres, sans eau, sans manger, avec des étant obligés de faire sous ailes ces personnes. Et oui, et lui, Jean, quand il est à la gare de Parigné-l'Évêque, que j'ai connu, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est aller au Mans, mais il ne sait pas ce que c'est que le Mans, il ne sait même pas où c'est le Mans. Il veut même y aller en sautant d'un seul coup. Mais il se dit que le train va l'emmener au Mans. Après le Mans, il se dit qu'il est de Paris, quoi. Enfin, c'est dans sa tête, il y a quelque chose. Et évidemment, étant là, d'un seul coup, ressurgit, lui, dans le wagon dans lequel qu'il l'a emmené à Gurs. Le train, la locomotive, la grosse locomotive à vapeur, est le symbole, hélas, de la déportation. La gare de Parigné-l'Évêque était une gare extraordinaire. D'abord, les trains faisaient Le Mans, le Grand Lucé, autant que je m'en souvienne, je crois. Mais ils roulaient à 4 à l'heure. C'est-à-dire, on pouvait marcher, courir, ou marcher à côté du conducteur et parler avec lui. Souvent, les gens, moi j'ai vu, j'étais gamin, les gens prenaient le train en marche, c'est-à-dire sur la voie, où le chauffeur s'arrêtait un petit peu. C'était un train merveilleux, enfin, dans ma mémoire, bien sûr, c'était un train merveilleux. Et j'ai voulu aussi le montrer, le raconter. Je crois que je le dis, je le raconte un petit peu la manière dont on se sert du train.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu, d'autres ne priaient pas. Mais qu'importe le ciel, il voulait simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier et tenaient qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
De la façon dont vous évoquez la résistance, la Sartoise. Un fond de vérité ou une énigme pour donner une dimension supplémentaire de suspense au roman?
Non, c'est totalement inventé. Je ne dis pas que la résistance n'a pas existé à Pargnes-l'Évêque, mais elle n'a pas existé telle que je la raconte. J'ai pris des personnages qui ont fait indiscutablement partie de la résistance, ne serait-ce que le pharmacien, Serge. N'est-ce pas, qui a vraiment existé, non pas sous le prénom de Serge, hein, et qui était aussi bossu, puisqu'il est, il est bossu dans le roman. Il a fait partie de cette résistance, c'est indiscutable, mais elle n'a pas existé telle que je la raconte. Qu'il y ait eu un chef de réseau, c'est évident, homme ou femme, mais non, tout cela est... Alors, vous pourriez me dire, mais alors, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas historique, si... Parce que venez-vous me montrer le contraire, je vous attendrai. Donc, c'est vrai, c'est un vrai faux. Voilà, c'est un vrai faux.
Vouliez-vous surtout raconter l'histoire d'un enfant réfugié ou décrire un village sous l'occupation?
Ah, ça c'est une bonne question. Les deux, mon capitaine. En fait, j'avais envie de parler des deux. De cet enfant, bien sûr, de ses problèmes, de ses traumatismes, de son interrogation sur l'avenir, de ce qu'il est, de sa recherche de lui-même, Et puis, j'avais envie de parler de cette quiétude du village. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors nous, enfants, encore plus, la guerre, c'était loin, on ne savait pas où était la guerre. De temps en temps, on voyait des tanks, on voyait des camions allemands, enfin nazis, qui passaient. Moi, j'ai toujours nazis plutôt qu'allemands. Et puis, on a vraiment compris, enfin, moi, j'ai vraiment compris, quand les Américains ont traversé Épargne-l'Évêque, qui nous ont bourré les poches de chewing-gum, de bonbons, qu'on a découvert. On ne savait pas ce que c'était que le chewing-gum. Mais cette quiétude, ça, j'ai voulu la raconter. Les enfants qui vont se baigner, les enfants qui jouent sur cet arbre devant l'église, l'arbre qui a vraiment existé, d'ailleurs, qui n'existe plus, malheureusement. J'ai dit au maire de Épargne-l'Évêque que je n'étais pas content d'avoir coupé mon arbre, notre arbre. Mais, oui, voilà, les deux. J'ai voulu raconter, je crois, si je dois m'auto-satisfaire ou m'adresser à un satisfaci, j'ai le sentiment que je suis allé, que j'ai tenu ma route et que j'ai, sans aller trop dans les détails, je crois que j'ai bien raconté l'histoire, que j'ai suivi ma route, c'est-à-dire que j'ai raconté à la fois l'histoire de l'enfant caché et un village de France.
Sa mère et la famille au pied, elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dort en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna, et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, 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 comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dort en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. D'autres gens n'avaient décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi ici et maintenant. Comme toi, comme toi, comme toi.
comme toi, comme toi.
Avez-vous imaginé la vie d'adulte de l'enfant du roman ? En bref, pourriez-vous écrire une suite ?
Oui, c'est vrai que... Et c'est un peu des journalistes qui m'ont interviewé depuis la sortie du roman qui m'ont poussé un peu dans ce sens. J'ai dans la tête une suite, c'est-à-dire la vie avec la vie avec sa mère, avec son père aussi, bien sûr, enfin avec ses parents tout simplement. Qu'est-ce que c'est que un enfant qui a subi ce qu'il a subi, qui se retrouve avec ses parents, qui a été aimé par d'autres gens, protégé par d'autres gens, sauvé par d'autres gens, quelle est la relation qui va s'établir entre eux ? Est-ce que c'est la relation où on saute dans les bras de l'un l'autre, maman, papa ? Ou bien est-ce qu'on a des points d'interrogation ? J'ai un titre dans la tête, je vous le livre. Mais si vous le vendez à ma place, vous allez voir. Hein, qui serait l'apprentissage de la mère. Jean a le droit de se poser la question. Est-ce que ma vraie mère, c'est Louise Leblanc ? Ou est-ce que c'est, je ne sais plus le nom, enfin, sa mère à lui ? Vous me suivez ? Quand on a subi une telle rupture, est-ce que l'on peut se retrouver dans des conditions d'affection ? Oui, bien sûr, on a envie de vivre ce qu'on n'a pas vécu, donc de rattraper le temps, mais nous le savons que le temps ne se rattrape jamais. Donc il y a quelque chose, il y a une béance qui existera toujours. Est-ce qu'à un moment donné, l'enfant ne va-t-il pas, soyons prudents, car je l'ai entendu, moi, ça, reprocher à sa mère de l'avoir, entre guillemets, abandonné ? Est-ce que la mère qui a subi cette déportation ne va-t-elle pas, elle-même, comme je l'ai raconté tout à l'heure, se bloquer sur ce qu'elle a vécu, sur l'enfer qu'elle a connu ? Oui, il y aura, si les dieux de l'édition m'écoutent, il y aura peut-être une suite.
Avoir choisi la forme du roman comme support pour évoquer cette question ?
Parce que d'abord, j'avais déjà fait un travail de documentation sur les enfants cachés et que je n'allais pas en faire un deuxième qui n'aurait rien apporté à ce que j'avais déjà fait. À travers un document, je n'aurais peut-être... D'ailleurs, dans le livre « Les enfants cachés », je parle peu des villages. Je parle des gens, bien sûr. Je parle des traumatismes, je parle des rapports. Mais je parle peu des villages. Et là, c'était aussi l'occasion de parler de ce village. Et puis, je vous l'ai dit, pour moi, ce livre, c'est un hommage que je veux, et que j'ai voulu et que je veux rendre aux Sartois, aux Sartoises, aux femmes et aux hommes qui se sont mobilisés. Donc, j'ai préféré... Mais votre question est intéressante, pourquoi ? Parce que c'est vrai que ce livre, moi, et en plus l'accueil qu'il a, qu'un accueil très chaleureux, très fort... me perturbe. Il y a un sujet que je veux traiter, j'en ai parlé, vous étiez à la projection tout à l'heure, qui est l'histoire de la conférence d'Évian de 1938. Et je m'interroge, est-ce que... Bon, le fait que je ne trouve pas d'éditeur, mais ça, c'est comme ça. Est-ce qu'il vaut mieux le raconter... Enfin, le raconter. Est-ce qu'il faut faire un livre d'histoire, un livre de témoignage, d'histoire, etc. Ou est-ce qu'il serait pas préférable d'écrire un roman ? Est-ce que le roman ne permet-il pas de faire mieux passer des aspects de telle page d'histoire ou d'autres ? Voilà, je suis, par rapport à votre question, dans une interrogation à laquelle je n'ai pas encore répondu.
Vous étiez caché car vos parents étaient résistants. Vous considériez-vous dans les mêmes conditions qu'un enfant juif caché ?
C'est une question très intéressante parce que, jusqu'à ce que je découvre Et jusqu'à ce que je me rende à New York pour le rassemblement des enfants juifs ayant été cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, je vous l'ai dit et je vous le répète, j'ignorais que dans une certaine mesure, j'ai été caché comme eux. Et c'est quand j'ai écouté toutes ces femmes et ces hommes, et quand j'ai aussi pu mesurer certains de mes traumatismes, parce que j'en ai subi, bien entendu. On n'est pas en rupture avec sa famille comme ça, et en dansant la gigue du matin au soir. Donc, je me suis dit à un moment donné, mais tu as été caché pareil à ces enfants. Donc, oui, je me considère comme un enfant juif caché. Mais je n'ai pas, il y a une dimension que je n'ai pas, bien sûr, que eux ont, qui est la dimension raciale. Donc ça, c'est évidemment très, très, très important.
Avez-vous eu des réactions de lecteurs concernés? Est-ce que ça a fait causer du côté de Parigné-l'Évêque?
Du côté de Parigné-l'Évêque, je crois que les Parigné-ens et les Parigné-ennes et les Parigné-ens ont été ont très bien accueilli le livre. Il y a des gens qui se sont précipités sur moi pour m'embrasser. Je me souvenais plus du tout, évidemment, de qui ils pouvaient être. Au Super Rue, la librairie Super Rue de Parigné-l'Évêque, je vous dis, ils l'ont vendu. Je ne sais pas combien on a fait de ventes, hein, je veux dire, mais oui. Parler, j'entends quelque chose dans votre question, mais je ne sais pas si c'est exact ce que j'entends. Vous voulez dire la polémique, vous voulez dire soulever des choses anciennes, etc. Non. Non. Je crois que d'abord, les femmes et les hommes qui ont vécu, pour la majorité d'entre eux, ne sont plus là. S'il y a eu des dénonciations, on a mis ça sous le boisseau. Il y a eu à Parigné-l'Évêque, je le raconte brièvement dans le livre, il y a eu une femme qui a été rasée. Mais ça s'est perdu dans les mémoires. Ça, je le sais parce que j'ai eu accès à un document. Mais ça a disparu dans les mémoires. Non, ça n'a pas de soulevé. Ça a soulevé de l'émotion, de la chaleur, de l'émotion. De l'émotion que... je raconte, et que, je sais plus qui a posé la question, je crois que c'est vous, pourquoi Parigné-l'Évêque? Ils m'ont presque dit merci de ne pas avoir inventé un village et de l'avoir situé là où l'action, en ce qui me concerne, avait eu lieu.
Ont participé à la réalisation de cette émission Julie, Justine, Chanice, Sarah, Stéphanie, lycéenne de première L à Ciel Guillaume. Cette série d'émissions consacrée à la Shoah vous est proposée par le lycée Paul Scarron de Ciel Guillaume et Fréquencillé. Elle est soutenue par le Mémorial de la Shoah, la région des Pays de la Loire, le rectorat de l'Académie de Nantes, dans le cadre du volet Éducation à la tolérance et à la paix du programme d'action éducative régionale.